La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Avec ces paroles, je voudrais vous accueillir parce que ce sont des paroles d'espérance et de joie. Et nous sommes aujourd'hui dans la joie puisque nous nous retrouvons pour vivre de l'essentiel, de la présence de notre Seigneur, évidemment. Mais vous savez que ces dimanches-ci de fin janvier et de début février sont des dimanches un petit peu spéciaux au foyer de l'âme puisque nous avons ces cultes conférences, entre guillemets, au cours desquels nous accueillons des orateurs venus d'horizons différents pour nous parler de sujets que nous avons choisis et préparés les uns les autres. Et donc je vous accueille tout particulièrement, vous toutes et vous tous qui êtes de passage aujourd'hui, qui n'êtes pas très habitués à cette maison et à ce temple, afin que vous puissiez par ces paroles vous sentir vraiment chez vous, dans cette maison, pleinement chez vous. Je crois que ça fait partie de notre manière d'être dans le monde chrétien que de nous accueillir les uns les autres. J'accueille tout particulièrement Jean-Pierre Clairaut, effectivement, qui est professeur de philosophie à la faculté de Rouen et qui prendra la parole tout à l'heure sur le libéralisme philosophique. Si je me trompe, tu me dis quelque chose. Tu me le dis, évidemment. Et donc, on t'écoutera avec beaucoup d'attention et certainement beaucoup de plaisir aussi. Je voudrais saluer tout particulièrement Béatrice aussi, qui est pasteur à Boulogne. Je confonds les villes de la banlieue ouest, la petite couronne, là, elles sont tellement imbriquées les unes dans les autres, excuse-moi, voilà. Donc j'espère bien qu'un jour tu viendras prendre la parole à ce micro aussi, si tu le désires. D'autant plus que tu as quelque acquaintance avec le libéralisme théologique aussi. Voilà, et puis c'est Mathilde, hein, c'est ça, hein. Voilà, soyez les bienvenus, là, toute la famille de Jean-Pierre, et sentez-vous vraiment très, très accueillis ici pleinement. Éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit, à toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on nous a encouragé fortement à lire deux grands textes qui sont très connus. Mais je n'ai pas résisté au plaisir de les relire avec vous. Le premier de ces textes est tiré du livre de Jérémie, au chapitre 1, les versets 4 à 12. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai, tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Alors, le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois ? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Et le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Et puis, ce texte que vous connaissez presque par cœur, ou par cœur, tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13. C'est l'hymne à l'amour. Aspirez aux dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges. S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte des montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie, car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra à la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Oui, Seigneur, ta parole est toute beauté. Elle nous transporte bien au-delà de nous-mêmes lorsque nous l'entendons, lorsque nous la lisons. Elle est vraiment notre nourriture essentielle. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.
Mesdames et messieurs, je remercie d'abord la communauté protestante du foyer de l'âme de m'avoir fait l'honneur de cette rencontre et de m'avoir aussi permis de dire le plaisir d'être parmi vous et de retrouver un ami dont la main visible a baptisé ma propre fille Mathilde il y a maintenant plus de 10 ans et dont la main invisible a conduit celle qui devait être mon épouse au pastorat. Alors cette main invisible est évidemment une transition pour passer à mon sujet qui est, comme Vincent vient de le dire, le libéralisme et sa philosophie. Ce qui fait la difficulté particulière d'un discours sur le libéralisme, c'est que peuvent s'en réclamer des conceptions et des attitudes politique, économique, sociale, si éloignées les unes des autres, qu'il n'est pas aisé d'en apercevoir les points communs, même lorsqu'un solide nominalisme nous préserve d'en attendre des ressemblances trop serrées. Catherine Audard note dans son récent livre sur « Qu'est-ce que le libéralisme ?», non sans quelque humour noir, que Pinochet, Mrs. Thatcher et les acteurs du New Deal ont pu se revendiquer du libéralisme. Les pratiques libérales sont extrêmement diverses, pour 3 raisons au moins. D'abord parce que l'intervention de l'État ou l'abstinence de l'État dans les affaires économiques est susceptible de toutes sortes de degrés. Ensuite parce que ces modes d'intervention ou d'abstention sont associés de multiples manières à des systèmes juridiques qui définissent eux-mêmes très différemment la propriété privée ou la propriété collective, la liberté individuelle ou groupale, l'égalité, le rapport des hommes à la loi. Enfin, parce que les actions politiques, dans le même cadre juridique et dans les mêmes structures économiques, peuvent elles-mêmes revêtir des aspects variés. Les philosophies reflètent cette diversité. Mandeville, Hume, Adam Smith, Bentham et Stuart Mill passent légitimement pour être des classiques du libéralisme. Et pourtant, loin de dire la même chose, ils se contredisent sur des points essentiels. Même les auteurs plus proches de nous, que nous nous entendons tous à classer parmi les libéraux, font apparaître des contradictions. Pour ne nous en tenir qu'à un exemple, Hayek fut un libéral au même titre que Rawls, mais leurs différends sont évidents. L'un était contractualiste, comme Hobbes, Locke ou Rousseau, l'autre ne le fut pas plus que Hume ou que Bentham. L'un pensait que les inégalités devaient être corrigées par une politique de redistribution au moyen de l'impôt, l'autre n'eut que morgue pour la justice sociale qu'il prenait pour cible favorite de ses attaques contre le socialisme. Et pourtant, les philosophies du libéralisme, j'entends les grandes philosophies libérales, ne se contentent pas de relever, de subir les contradictions, de telle sorte que le lecteur les voit, laissé à lui-même pour déceler ce qu'il y a de commun sous le vocable libéral ou libéralisme, elles font ces philosophies ordinairement mieux que cela. Elles pensent ces contradictions. Peut-être même se sont-elles aventurées, non sans outrecuidance, jusqu'à les fonder en les assimilant à quelques traits essentiels de la condition humaine. C'est par ce biais que je voudrais traiter de la philosophie du libéralisme, si tant est qu'on puisse lui trouver quelques unités. À coup sûr, le libéralisme n'est pas seulement une façon de produire, d'échanger et de consommer des marchandises et des services. Il ne se sépare pas de certains styles scientifiques spécifiques, se para-t-il des catégories d'universalité et de nécessité, de manières de penser, de façons de se normer et de jouer avec les normes, singulièrement puissantes si on les compare aux autres modes de vie et de pensée. Je voudrais montrer sur quelques points privilégiés comment fonctionnent les contradictions du libéralisme dans le libéralisme et comment ce fonctionnement explique à la fois sa relative fragilité que les auteurs libéraux ont tant de fois à des époques diverses redoutée et sa prodigieuse vivacité qui fait que un certain nombre d'hommes inscrivent leur vie dans son cadre en dénonçant ses travers sans doute, mais au bout du compte en l'acceptant profondément, car cette critique même fait partie de son mode fondamental de penser, de se penser. On pourrait placer cette réflexion, enfin la réflexion qui suit, sous le signe d'un fragment des pensées de Pascal qui dit lapidairement que « contradiction est mauvaise marque de vérité », à condition d'ajouter que « contradiction pourrait être aussi, en un sens non moins pascalien, mauvais signe de justice, de moralité, de bonheur ». Mauvais, sans doute, dans ce que la contradiction nous conduit en un constant porte-à-faux à l'égard des valeurs, mais vérité, et plus généralement valeur quand même, dans la mesure où, précisément, les valeurs ne jouissent pas d'une transcendance sereine et immobile, et qu'il ne convient pas de chercher à les incarner directement et à les figer, mais à y accéder ou à les poser à travers ce porte-à-faux. La première et principale contradiction du libéralisme se découvre particulièrement en lisant la philosophie de Stuart Mill, qui est à la fois l'héritier d'un long mouvement qui, dans la lignée de Pascal, de Hobbes, de Hume, de Kant, met en cause la réalité, la substantialité du moi subjectif et individuel, et qui, consciemment, délibérément, pose la valeur du moi comme si nous n'avions rien de mieux à faire que d'en devenir un. Plongeant ainsi le lecteur de la liberté ou des considérations sur le gouvernement représentatif, qui sont deux textes de Stuart Mill, dans une étrange perplexité. Il est entendu que le moi n'a pas de consistance, qu'il éclate en toutes sortes de contradictions, qu'il n'est qu'un ensemble, relié par des lois, de perceptions, qui donne simplement l'illusion de pouvoir être principalement et fondamentalement rapporté à un moi par un déploiement d'actes aussi inconscients qu'efficaces comme l'identification, l'assimilation, l'introjection. Que ce soit chez Pascal, chez Locke, chez Hobbes, chez Berkeley, chez Hume, chez Kant, le sujet se trouve, par des attaques scientifiques, par des attaques théoriques, mis en question dans sa prétention à exister sur le mode de l'identité, de l'unité. Il n'a pas d'autre réalité que celle d'une fiction ou que celle d'un simple nom. Mais l'attaque du moi, du mien comme de celui des autres, s'accompagne invariablement de la réactivation de ce même moi sur le plan pratique, juridique, économique, social, alors qu'il a été rudement compromis sur le plan ontologique. Chez les uns, comme chez Kant, le « moi », d'abord contesté, fait son retour sur le mode de la personne, que chaque complexe passionnel a la charge de devenir et de faire exister. Ainsi, après avoir montré qu'il n'y a pas de personnalité réelle du « moi », Kant donne l'horizon à chacun de se fabriquer comme personne et de solliciter par ses actes le même type de fabrication chez les autres. Chacun a la charge de fabriquer la règle à laquelle il entend se plier en tenant compte du même impératif chez les autres. Ou, et la nuance est de taille, il doit se plier à une règle en l'assumant comme si c'était la sienne. L'invocation de l'autonomie permet de dire et de faire que nous plier à une règle que nous n'avons pas produite nous laisse aussi libre qu'auparavant, aussi libre en tout cas que si nous l'avions produite, puisque c'est nous qui avons décidé de nous y plier. Par une logique de fiction et de repli caractéristique de l'argumentation libérale, décider de nous plier à une règle équivaut à ne pas la subir, puisque nous l'acceptons. L'habileté du libéralisme est de placer la vérité de la règle, son tranchant, non pas dans la règle même, mais dans le principe de son acceptation. Voilà pour Kant. Chez les autres, comme chez Stuart Mill, vers qui nous nous tournons maintenant, nous trouvons un tout autre genre de subjectivité qui tient moins à l'autonomie personnelle qu'à l'individualité. La même fonction, la véritable fonction des sociétés modernes, doit être, selon l'ouvrage qui s'appelle « De la liberté », de promouvoir l'individualité, entendue comme chemin original, en aucune façon universalisable, pour conduire sa vie. Une société ne peut exister en promouvant des valeurs autres que sa propre subsistance que si elle permet à chacun non seulement d'avoir des intérêts, aucune société n'est possible sans cela, mais encore de se les représenter et de laisser s'effectuer le plus qu'il se peut la multiplication de tels chemins. Contre certaines tendances de la Révolution française, contre Napoléon, lui reconnut-il les qualités de grand réformateur, contre Bentham lui-même, qui fut son maître, l'auteur des Considérations, Stuart Mill, affirme que la meilleure des politiques, considérée en elle-même et du point de vue des choses qu'elle propose, n'aboutit qu'à un désastre si elle ne prend pas en compte les individus dans ce qu'ils sont et dans leur possibilité de changement. Cela implique deux choses. Certes, de ne pas imposer aux individus des mesures qu'ils refusent, parce qu'elles sont mauvaises à leurs yeux, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, ou parce qu'on ne leur en a pas montré suffisamment l'intérêt à supposer qu'il en existe. Mais aussi, de respecter les droits de l'opposition et des minorités, en évitant d'engranger des victoires électorales pour plusieurs années sans aucune concertation avec ceux qui ont été défaits sur des questions qui pourtant les concernent au premier chef. Or, il ne faut pas oublier que ce souci de l'individualité, poussé jusqu'à l'excentricité, c'est le mot choisi par Stuart Mill, c'est-à-dire par un homme dont le mode de vie fut plutôt austère, est sous-tendu par la certitude que l'individualité n'a pas de réalité substantielle, qu'elle est reconnue comme une certaine relation de la société à elle-même, ou plutôt d'un certain type de société à lui-même. Comment des positions aussi contradictoires sont-elles possibles? Sur quoi le désir d'autonomie peut-il s'appuyer? Sur quoi le désir d'originalité peut-il se fonder? La réponse est invariablement liée au résultat d'un travail qui avait été accompli par les auteurs anglais aussi bien connus de Kant que de Stuart Mill et que nous avons déjà cité, les points d'appui à partir desquels se développe l'intérêt pour la personne ou le goût de faire un écart par rapport aux autres tiennent à une structure passionnelle dont Hume révélera le caractère de faisceau, constituant ce que nous appellerions aujourd'hui, sans beaucoup plus de clarté, le narcissisme. Le jeu, à partir duquel prennent leur sens les principes de la morale, du droit, de la politique, de l'organisation sociale, est une production imaginaire ou symbolique des passions, de certaines d'entre elles du moins, comme l'orgueil ou l'humilité. Loin de dire que l'orgueil a lieu dans le sujet, comme s'il lui était un abri, il faut dire tout au contraire que l'orgueil est la position d'un sujet imaginaire. C'est un entrelacs de passions qui crée les conditions de l'appel à être une personne. Cette personne fut-elle posée comme dépassionnée et apparut-elle à chacun comme une sorte de vis-à-vis ? Ou à se réaliser comme individu, celui-ci fut-il posé comme une volonté désireuse de se démarquer d'un jeu de passion. Il est remarquable dans les deux cas, celui de la personne et celui de l'individu, que l'on a affaire à un jeu de renversement entre les passions et les valeurs. Les valeurs sont directement issues des passions, si même elles s'en distinguent. Et pourtant, ces valeurs, elles se donnent à voir à l'envers, comme objet d'aspiration plutôt que comme résultat d'une poussée passionnelle. C'est ainsi que l'intérêt privé se mue en intérêt collectif, que l'orgueil se fait dignité collective, que l'ambition se fait idéal pour le groupe, selon toute la gamme dont Bentham a su repérer les degrés avec leurs inversions linguistiques, certes, mais non sans effet réel dans The Springs of Action, dans les ressorts de l'action. Le libéralisme est la reconnaissance, peut-être l'invention, en tout cas la mise en place, la mise en scène, l'institution, de tous les moyens de consolidation de ce renversement, ou plutôt de ce faisceau, de cette grappe de renversement dont Bentham a tenté de dresser la liste. Deux auteurs de notoriété universelle ont expliqué ce mouvement. Mandeville, l'auteur de la fable des abeilles, et Adam Smith, qui est non seulement l'auteur de la richesse des nations, mais aussi de la théorie des sentiments moraux, laquelle est beaucoup plus intéressante pour notre propos. Mandeville a commencé par donner à cette idée un tour paradoxal et cynique. Les vertus privées font le bien public. Et celui qui voudrait faire des vertus publiques avec les seules vertus privées n'aboutirait, par son moralisme intransigeant, qu'à transformer la société en un champ de ruines, ou au mieux, en quelques pays d'Arcadie où les hommes n'ont guère plus de valeur et n'en produisent pas davantage les uns pour les autres, faute de s'affronter en une sévère concurrence, que les moutons qu'ils font paître. L'idée est que si l'orgueil, l'envie, l'ambition, la volonté de dominer l'autre, les stratégies développées pour les circonvenir et les dépasser, trouvent constamment en face du répondant, il en résulte un inextricable entrelacement qui produit des valeurs que nul ne saurait décider par quelque volonté directe. Le terreau inconscient qui se produit par l'entremêlement des désirs est infiniment plus fécond que ce qu'aucune conscience pourrait constituer par elle-même, encore que l'ouvrage de chacune de ces consciences soit requis pour que la production de valeur ait lieu. Adam Smith a repris l'idée dans sa théorie des sentiments moraux en lui donnant toute son extension, mais en lui retirant aussi le tranchant cynique qui fait tout le sel de la fable des abeilles. Dévoilant le principe même des savoirs occidentaux, l'enracinant dans le même mouvement qui est celui du développement des sociétés, montrant le fonctionnement de la production des valeurs, qu'elles soient éthiques, morales, politiques, voire épistémiques, peut-être même les inventant, sous couleur de les dévoiler, Adam Smith présente, sur plusieurs exemples, comment se bâtissent les valeurs en un mouvement hélicoïdal qui fait que ce qui est vécu à un moment comme subjectif se retourne dans l'autre, devient objectif et principe d'une nouvelle subjectivité sans qu'il y ait eu un commencement et sans qu'il y ait de fin du processus. Sans commencement, en ce sens l'idée de nature, l'idée que le savoir doit partir des sensations ou des perceptions, l'idée qu'il existerait en soi des passions, se dissolvent. Ce qui existe chez Adam Smith, comme plus tard chez Hegel, dont la dialectique est éminemment smithienne, c'est un mouvement de torsion des passions sur elles-mêmes, de sorte que la conviction se fasse savoir, que les passions deviennent valeur, que les présomptions deviennent vérité, etc. Il n'y a pas davantage de fin, et sur ce point, nous verrons comment Hayek va transformer ce mouvement puissant et fragile, constamment au bord de la rupture, du libéralisme moderne. Adam Smith n'est donc pas seulement un économiste. Il a parfaitement compris que le mouvement de tout savoir, qu'il s'agisse d'astronomie, de droit, de politique, en passant par celui de la structuration de la société civile, ne prenait son sens que dans une incessante construction dont la vérité, comme la justice ou quelque autre valeur, ne peut jamais se stabiliser parce qu'elle est dans le mouvement même de construire, alors qu'elle se donne volontiers comme transcendant ce mouvement et en quelque sorte l'aspirant. Par la compréhension d'un savoir sans vérité, mais qui ne s'en établit pas moins fortement, par un droit qui graduellement va devenir sans justice, par une éthique sans bien, se met en place ce gigantesque porte-à-faux des valeurs du libéralisme, qui peut leurrer les plus naïfs, désespérer les intégristes des valeurs, mais qui, à la fois, aspire toutes les énergies, aisément libérées par les contradictions subjectives, en les transformant inlassablement, sans que l'on puisse assigner de finalité à ces constantes transformations. Bentham, l'auteur de Chrestomathia et du Rationale of Judicial Evidence, la rationalité de la preuve judiciaire, Bentham donc est allé beaucoup plus loin que Mandeville, Adam Smith et même que Stuart Mill, en dépit des apparences et de la chronologie qui paraît avantager celui-ci. On a souvent admiré Stuart Mill pour avoir donné une conception équilibrée du libéralisme. Nous avons vu comment il partait du porte-à-faux qui divise les individus au moment où il se sert de leur énergie et comment, sans demander aux individualités de renoncer à elles-mêmes, il l'exploitait, cette énergie, pour fabriquer de nouveaux équilibres. Or, Bentham va plus loin que Stuart Mill en préconisant plus délibérément que lui une conception symbolique ou aveugle des valeurs. Il ne se satisfait pas de la notion de passion, dont il dénonce le caractère fallacieux, Et il se propose de la remplacer par la notion de fiction qui offre la plus grande place au soubassement symbolique. Le langage, l'affrontement langagier qui donne lieu à la fameuse guerre des mots benthamienne est plus fondamental que l'ordre affectif. D'une certaine façon, en disciple de Berkeley, Stuart Mill avait bien vu lui aussi que la sensibilité et l'affectivité étaient de l'ordre du discours, du logos. Dans « De la liberté », il en tire les mêmes conséquences que Bentham. On montre son humanité en ne se contentant pas de convictions morales, mais en discutant les positions éthiques, politiques, juridiques des autres, et en acceptant, bien entendu, que les siennes soient pareillement discutées. La discussion devient le fond des affaires humaines dans « De la liberté », texte qui, après le manuel des sophismes politiques, dont le propos était de déplorer le sinistre état de la rhétorique politique, tente de montrer une positivité aux valeurs de l'argumentation. La tentative ne se révèle toutefois pas sans piège. Derrière l'apologie que fait Stuart Mill de la discussion, on décèle une conception platonicienne, voire socratique, c'est-à-dire au bout du compte et du point de vue stuartmillien lui-même, intuitive des valeurs. On discute pour savoir le vrai. On discute pour que la justice apparaisse. On discute pour connaître la meilleure loi ou le meilleur régime. Or, ces formulations très simples et qui paraissent aller de soi ont en réalité deux sens opposés entre lesquels Stuart Mill, qui ne choisit pas, ne cesse de passer. On peut vouloir dire que la discussion se déploie au service de valeurs qui, à la limite, pourraient exister sans elle, sans cette discussion. Toutefois, on peut vouloir dire aussi bien tout le contraire, car de cette vérité, de cette justice, de cette meilleure loi, de cette meilleure politique, on peut encore dire ce qu'en dit Pascal lorsqu'il raille notre plaisante humilité, qui consiste à croire qu'il est possible d'atteindre ces valeurs, mais que nous en sommes encore loin, faute d'y mettre suffisamment d'énergie ou faute de connaître le chemin qui y conduit. Or, la vérité, la justice, le bien sont sans doute ce qui manque le plus. Il s'agit de les construire à travers les sciences, à travers les preuves et à travers toutes sortes d'activités symboliques qui permettent d'écrire les lois, de faire émerger des gouvernants, etc. C'était certainement la principale leçon à tirer du long Rationale of Judicial Evidence, dont Stuart Mill ne paraît pas envisager la radicalité, alors même qu'il a édité l'ouvrage. Il n'y a pas de vérité qu'on pourrait découvrir par dévoilement, pas de valeur auxquelles on pourrait accéder par réminiscence. La confrontation dialoguée les fait émerger, hic et nunc, sans qu'aucune transcendance ne soit jamais ultime ni décisive. Ce qui fait office de vérité, de justice, de bien, est lié aux activités mêmes de construire des sciences, d'élaborer des lois, de conduire des procès, mais il ne les précède pas, comme les hommes en ont si souvent l'illusion, dupes qu'ils sont de leur opération et de ses inévitables projections. Nos valeurs sont symboliques, elles n'ont de consistance qu'à ce titre. Le point important est ici que le libéralisme ne requiert pas une croyance dans les valeurs. Ou plutôt, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le résultat est sensiblement le même. C'est pourquoi il donne lieu, ou du moins il permet, hypocritement sans doute, mais le résultat est souvent là, non sans accident, parfois très grave, il est vrai, l'existence, il permet l'existence de la tolérance dans la société. S'écrivent alors les valeurs sans qu'on ait à les croire, alors qu'on le fait par nos actes mieux que si l'on y croyait. Cette façon de comprendre les sciences, les preuves, les actes politiques, les lois et l'adhésion non contractualiste aux lois, qui manifeste quelques traits convergents, est utilisée par Hayek comme point d'appui pour attaquer le socialisme à l'époque contemporaine. Il est intéressant de regarder le libéralisme sous les deux angles principaux selon lesquels Hayek critique le socialisme. Celui de l'impossibilité de s'élever à un point de vue total, au point de vue total qu'il suppose ce socialisme et qui lui permettrait de se substituer au marché. Celui de dissimuler sous des apparences scientifiques, une croyance assez vulgaire et à coup sûr dangereuse aux yeux de Hayek, de nature plus sentimentaliste que rationnelle, dans la justice sociale. L'idée de Hayek est donc d'attaquer le socialisme, non pas comme s'il s'agissait d'un mauvais choix, dans une alternative avec le libéralisme, mais comme une erreur. Comme une erreur qu'il s'agit de corriger, voire d'éradiquer, comme une attitude de mauvaise foi, quand ce socialisme est défendu par des gens intelligents et moralement instruits des méthodes et des concepts de leur temps. Ce point de vue est à l'opposé de celui de Stuart Mill, qui voyait plutôt dans le socialisme ou le communisme un état idéal dont les hommes étaient indignes sur le plan moral à cause de leur égoïsme inné et dont la réalisation conduirait à des déboires pires que les inégalités présentes puisque la domination économique se trouvant interdite, l'envie et la haine circuleraient dans les seuls canaux restants des appareils administratifs et politiques de l'État. L'expérience historique a tristement justifié ces sinistre présage. C'est pourquoi il faut regarder de près les deux arguments qui viennent d'être esquissés. D'abord, la rationalité totalisatrice, qui est la condition même du socialisme, est absolument impossible et dépassée. Il n'est pas seulement lourd et difficile, mais il est absurde de prétendre s'élever à la connaissance de tout ce qui se passe sur le marché, dans la société ou quelque autre gigantesque collectivité. La physique moderne elle-même a déjà, depuis longtemps et très largement, renoncé à l'ambition d'écrire les lois universelles de la nature, comme l'avait encore prétendument fait Newton en s'immisçant dans les secrets du transcendant, du pantocréateur. Pantocrator, pour ne se considérer plus que comme la théorisation de valeurs essentiellement statistiques ou probabilistes des expérimentations, réelles ou fictives d'ailleurs, du physicien qui produit des effets dont il s'agit plutôt de localiser la portée que de l'étendre à l'infini et bien au-delà du contrôlable. L'idée de la science moderne et plutôt de mettre en forme les phénomènes et de savoir comment se comporter à leur égard quand nous ne pouvons savoir les choses même. On conçoit que ce qui est vrai en physique l'est à plus forte raison dans les sciences humaines. Le dénominateur commun entre un désir et un autre, un intérêt et un autre, l'intérêt d'aujourd'hui et l'intérêt d'hier et de demain, est ce qui manque le plus. Il est tout au plus fantasmé. Il faut se garder de lui accorder une portée réelle et objective. En eût-il une d'ailleurs qui n'aurait pas d'intérêt ou qui n'aurait d'intérêt que pour celui qui en a besoin dans ses calculs locaux. Mais cette commensurabilité ne permet nullement d'écrire des lois générales qui rendraient compte de ce qui se passe à grande échelle sur un marché, par exemple. Le socialisme, comme toutes les dialectiques totalisantes du XIXe et du XXe siècle, est un avatar d'une conception newtonienne, fantasmatique, panoptique de la science. La rationalité se trouve plutôt dans la surveillance de l'échelle à laquelle ce qu'on expérimente a le moindre sens et la moindre valeur. La plupart des penseurs, suffisamment formés par les méthodes dites subjectivistes en probabilité, et par les réflexions d'un Heisenberg, par exemple, l'admettent dans presque tous les secteurs théoriques. Ils savent, depuis beaucoup plus longtemps encore, tourner ce genre d'argument contre la religion naturelle, comme on le voit dans les dialogues sur la religion naturelle de Hume. Pourquoi, dès lors, refuserait-il d'en comprendre la valeur en économie, précisément quand il s'agit de l'ordre social, où le sérieux des interventions devrait pourtant être maximal. L'acteur, individuel ou particulier, sait ce qu'il veut, et il se donne les moyens de le réaliser. Il rencontre dans son désir d'autres acteurs, d'autres volontés. C'est ce jeu qui fait un ordre, lequel n'est voulu par personne en particulier. L'ordre qui se fait réellement ne coïncide certainement pas avec l'ordre qui est projeté par chacun. Mais les désirs d'ordre qui jaillissent en tout lieu et à tout moment, en dialogue et en concurrence, fabriquent un ordre qui n'est plus à proprement parler une organisation et qui ne sera jamais un équilibre. L'ordre général qui résulte de chaque micro-ordre voulu par chaque intelligence particulière, n'est pas lui-même un ordre intelligent et ne doit pas être conçu comme un ordre susceptible d'être voulu, changé, corrigé par une intelligence ou par l'intelligence. L'illusion socialiste est de croire que, parce que l'ordre économique et social est fait par des intelligences, il peut donc et doit donc nécessairement revenir aux intelligences de le modeler, parfaire, rationaliser en fonction de ce qu'elles estiment être un horizon ou un état idéal. L'habileté de Hayek en dénonçant cette illusion est d'aller chercher les intellectuels de gauche sur le terrain même de leur ordinaire athéisme religieux ou social, de rappeler certains d'entre eux aux exigences de leur rationalisme subjectiviste et non totalisant, et de leur faire éprouver que leur incrédulité est à géométrie variable dans les points d'appui qu'ils s'offrent et qu'ils modulent dangereusement au gré de leurs envies. L'idée de s'emparer de ce jeu et de le faire fonctionner de manière centrale n'a pas d'autre sens que fantasmatique. Et si elle aboutissait, cette idée, elle casserait irrémédiablement, et en tout cas durablement, la fine et permanente mise en ordre du marché qui s'effectue par l'opération de chaque acteur, sans qu'il sache comment, même s'il est bon et nécessaire d'établir des règles du jeu. L'ordre du libéralisme, l'ordre du marché, ne peut davantage être dirigé par une intelligence que l'ordre du monde par quelque artifex maximus. Il est étrange que ceux qui récusent le théisme s'accommodent intellectuellement fort bien de son équivalent tout aussi mythique, mais pratiquement beaucoup plus dangereux, quand il s'agit de mettre en ordre le marché et la société. La société n'est pas une machine robuste que l'on peut malmener et qui permettrait n'importe quels essais avec la certitude de pouvoir revenir en arrière. Le second argument de Hayek est tout aussi féroce, du moins dans ses intentions antisocialistes. De la même façon que le radicalisme, le socialisme a pu se présenter comme une critique de certains aspects affectifs et instinctifs du libéralisme. Au mutisme des passions, à leur motivation qui prend une apparence allogique, il s'agissait d'opposer l'explication et la demande d'explication, la justification et la demande de justification par le langage. Or, cette exigence critique peut facilement se dégrader en une sorte de rhétorique qui finit par devenir l'équivalent d'un nouveau sentimentalisme. On peut donner des leçons aux sentimentalistes et néanmoins tomber dans la position humiliante d'avoir seulement déplacé leur sentimentalisme. Le rationalisme plat commence par attaquer le sentimentalisme de ses adversaires, puis il lui substitue les affects qui le sous-tend lui-même. La ruse de Hayek est de comprendre le sentimentalisme et la discursivité éthique, juridique, politique, non pas comme des positions, mais comme des fonctions qui ne cessent de s'entrecroiser. Le sentimentalisme passant alternativement d'un côté et de l'autre et freinant les avancées ou les impatiences discursives de l'autre bord. Dans cet entrecroisement, le vainqueur d'une bataille de la guerre des mots peut devenir le vaincu de la suivante. Si Bentham a su montrer combien les façons de sentir et de désigner les choses, les lois, les institutions, les actes, les gestes, les motivations, opposaient un frein à tout changement social, Hayek réitère l'argument, mais cette fois en l'inversant, contre les socialistes fustigés comme les nouveaux conservateurs pour avoir su imposer dans la plupart des langues la justice sociale comme un euphémisme désignant des positions qu'aucune entreprise nouvelle ni aucune modification de l'ordre social ne peuvent plus mettre en cause sans être taxées d'ignominie. La force de dénonciation de Hayek, tout entière empruntée à Adam Smith et à Bentham, tient dans l'idée, facilement admise par les intellectuels et les penseurs de notre temps, qu'il n'y a pas de borne naturelle et que par conséquent, il n'y a ni début ni fin à la spirale des motivations de l'action. Dès lors, pourquoi devrait-on arrêter le mouvement hélicoïdal au terme de la social-démocratie actuelle et à son acception comme état-providence? Je voudrais conclure, parce qu'il est grand temps. Le propos de Hayek est intéressant, surtout quand on remarque qu'il a été tenu dans les années 70-80, c'est-à-dire dans une phase où des gouvernements socialistes arrivaient au pouvoir ou s'apprêtaient à y parvenir un peu partout en Europe ou ailleurs dans le monde. La critique est bonne à prendre. Il n'est pas inutile de savoir qu'il n'y a pas de point de vue transcendant dans les questions économiques ou politiques et que le mouvement des motivations ne s'arrête pas avec la surrection de quelques nouvelles valeurs. Mais je me demande si le mouvement initié par Hayek contre les socialistes ne doit pas être poursuivi, cette fois pas nécessairement en leur défaveur, mais plutôt contre lui-même. Ses travaux remontent déjà à 2 ou 3 décennies. Le propos de Hayek était de dresser, non sans habileté, le libéralisme contre le socialisme, comme s'il se fût agi d'un adversaire absolu et dangereux. Un certain nombre de crises, et parmi elles la dernière tout particulièrement, nous ont appris à être plus circonspects. Un certain nombre de pratiques que les libéraux, dont Hayek, qualifiaient de socialistes et reprochaient aux socialistes, à commencer par les interventions de l'État dans les affaires économiques, a paradoxalement servi au salut, peut-être provisoire, d'un grand nombre de banques et d'entreprises qui, grâce à l'argent des contribuables, se sont trouvées confortées sans plus de contrôle qu'auparavant. Il est donc loin d'être évident, à en juger par la généralité de ces interventions, que les pratiques socialistes fragilisent les systèmes libéraux ou le système libéral. Il est paradoxal, il ne sera évidemment pas durable, que le libéralisme, apparemment incapable de se sauver lui-même en dépit de sa réputation de souplesse et de sa capacité à rebondir, compte sur les actions étatiques pour sauver les profits qui passent dans peu de mains avec l'argent que l'on se fait fort de refuser de partager avec le plus grand nombre. De ce point de vue, Stuart Mill avait visé plus juste quand il comprenait la vie politique moderne comme un jeu de balance entre deux parties, celui du mouvement et celui de l'ordre. Ces deux notions étant envisagées comme deux fonctions interchangeables, de telle sorte que celui qui s'identifie à la conservation de l'ordre à un certain moment puisse devenir un mouvement, tandis que l'autre, en miroir, décrit la trajectoire inverse, jusqu'à ce qu'un parti fasse la synthèse de ces deux tendances et exerce durablement le pouvoir. Il semble bien à présent que les ressources de l'opposition et de la dialectique n'aient pas été épuisées et que les inversions soient si vives et si extravagantes que l'on comprend que le jeu de l'alternance qui caractérise le libéralisme est loin d'être achevé. Le libéralisme tire sa force de jouer de ses contradictions. En évitant les déchirements, peut-être seulement en les différant. Il prend le parti du conflit, ne cherche pas à le résoudre, mais plutôt à le déplacer, sans que l'intelligence ne prenne des allures de maître ou la figure de l'universitaire. Peut-être le plus grand nombre des individus qui ne brisent pas se reconnaissent en lui parce qu'ils parviennent encore à se donner à lui corps et âme avec et dans leur propre scission qui caractérise la subjectivité. Nous avons vu avec Mandeville comment les vices privés font les vertus publiques. Avec plus de temps, nous aurions pu établir comment la rationalité, qu'elle soit scientifique ou pratique, s'effectue par une indéfinie combinaison d'éléments irrationnels, comment l'équivalent de la justice s'effectue par un affrontement de considérations sans justice. Les gouvernements libéraux jouent encore sur nos divisions intimes en nous accordant pleine liberté d'opinion, d'écriture, d'enseignement, de parole, de réunion, tout en limitant notre liberté d'action. Que les passions n'aient pas leur raison en elles-mêmes les rend particulièrement fausses, comme le repérait Stendhal avec quelque humour dans Le Rouge et le Noir lorsqu'il citait le mot de Giraudet. Se sacrifier à ses passions passe, mais à des passions qu'on n'a pas, au triste 19e. On pourrait craindre que ce jeu sur les divisions n'ouvre grande la porte à toutes les hypocrisies, tellement bien reflétées par ce mot de personne, dont tous les latinistes savent qu'il désigne lointainement du mot persona, n'est-ce pas, qui signifie le masque. Comment ne pas voir que la revendication du moi original, inventif, génial chez Stuart Mill, qui se pose comme le droit pour chacun d'ouvrir sa voie à égalité avec tout autre, s'accompagne d'une méfiance à l'égard du suffrage universel, accusé de tenir pour équivalente la voix de l'homme le plus finement instruit avec celle d'un conformiste sans aucune instruction. Que les hypocrisies soient possibles est sans doute le prix à payer pour un système qui ne cesse d'exploiter les divisions qu'il trouve pour faire travailler les siennes, qui ne se trouvent jamais être au même endroit. Dans The Fatal Conceit, la fatale suffisance, texte dans lequel Hayek concentre ses critiques du socialisme, l'auteur conclut sur les valeurs religieuses, établissant, avec ce qui pourrait sembler un incroyable cynisme, que lui, le non-croyant, l'agnostique, défend cependant les valeurs religieuses, quoique sans les notions de justice ou d'humanité. Hayek est parfaitement pascalien. Il ne confond nullement ce qu'il estime être les pseudo-valeurs humanistes avec les valeurs religieuses. Et il entend bien que le refus de voir occupé par l'humanité des valeurs transcendantes puisse prendre la forme, à laquelle il ne croit pas lui-même, de la position d'un Dieu transcendant, dont nous ne percevons nullement les intentions. Que seul un Dieu puisse occuper ce poste est la meilleure garantie que les hommes ne cherchent pas à se l'accaparer. Ce dernier point, et c'est vraiment là-dessus que je termine à l'instant, nous donne l'occasion de nous interroger sur les rapports qu'entretient la conscience, si volontiers et si fortement invoquée par les protestants, avec le libéralisme. Sans doute, aux yeux d'un benthamien, la conscience est-elle l'invocation d'un alibi dangereux, qui n'est guère un principe plus justifiable que toutes les formes de subjectivité dont nous avons parlé, la personne, le moi, l'individualité. Mais la prétention de connaître ce principe, de travailler directement sur ce qu'on estime le fonder, n'est-elle pas plus dangereuse encore ? L'invocation de la conscience, de sa conscience, n'est-elle pas forcément celle de l'ignorant ? Mais celle de la docte ignorance, en ce sens que la conscience peut être le savoir de celui qui sait qu'aucun savoir ne peut prendre la place de la frêle individualité dont l'être est si contestable. Le ne pas savoir de la conscience ne donne pas à celle-ci le droit d'être ignorante. Cette naissance lui donnerait plutôt le devoir de s'instruire, mais à condition de critiquer le savoir lui-même et d'en abattre toujours les prétentions.